Wydał? Gmina Czelać też jest wydawcą.
Il y a un an, il y a eu dans le journal de Czelać deux pages ou même trois pages sur la famille. Je me rappelle une page sur Victor Tesna et puis deux pages sur notre séjour l'année dernière au mois de juillet. Donc le journal de Czelać est un journal qui... C'est le journal de la famille. Si vous voulez avoir des nouvelles de la famille, lisez le journal de Czelać.
Hubert Guyota, Marie-Simon Guyota, Régis Guyota, Noël Guyota. Son cousin, Ipana Benoît.
Victor Vianney, Angèle. Les enfants. Oui, Régis, ici. Hubert, voilà. Marie-Simone avec Hubert. Noël avec Régis. Et puis Claire, ici. Et la fille de Martine, voilà. Voilà. Donc, 8, 23.
Voyage singulier en Pologne.
70.
Claire Pouliborgeau, Anna Smuk.
Voilà. Si vous aviez invité toute la famille Vianney, on serait 100.
Zmieszczą się.
C'est faisable.
Il y a beaucoup de place.
Vous avez le cœur, vous avez un très gros cœur. Le cœur de Czelać est très grand.
To takie mamy duże serce my Czeladzianie, jak i cała rodzina Wianich.
Do Czeladzi. Le grand cœur comme la famille Vianney.
Merci.
Zapraszam serdecznie,
C'est un voyage singulier qui nous a mené, une partie de ma famille et moi-même, à Czelać, petite ville minière de Silésie en Pologne. Loin des routes touristiques, à une heure de Cracovie, nous sommes accueillis par les instances de la ville. Czelać souhaite mettre à l'honneur le travail de notre grand-père et arrière-grand-père pour la mine de Piaski, l'une des deux mines de charbon de cette agglomération. Voyage singulier qui mêle souvenirs familiaux et mémoires minières dans cette Pologne du début du XXe siècle. À l'époque, tout autour de Czelać, c'est la campagne polonaise avec ses hivers rigoureux et sa paysannerie pauvre. Le développement de la mine et de la cité qui l'entoure a joué un rôle déterminant pour la ville, qui se souvient de ses années passées, comme ma famille, avec émotion.
On est dans les quartiers Piaski. Ici fonctionnait la mine de Czelać. On passe par le quartier mineur et à droite, on voit l'église qui a été construite grâce à votre grand-père. Voilà, et on voit les maisons où habitaient des employés de la mine et des ouvriers. On va visiter la station de eau de la mine de Czelać.
La station des eaux.
Des eaux, oui. Parce que la mine de Czelać se trouve pas loin de la rivière et il y avait toujours la menace des lormes, non seulement de l'eau souterraine, mais aussi de la rivière.
Là, on se trouve devant un habitat un peu collectif. Qui a été édifié sans doute au temps des Français.
Pour les mineurs, oui, bien sûr. C'est le quartier français,
on peut dire. Bien. Oui. Dire. La rue s'appelle la rue française.
Ah, oui, la rue française. Voilà.
Mais là, je crois que ça devait être une maison de contremaître plutôt. Contremaître, oui.
Parce qu'il y avait. Que c'était très hiérarchisé.
Les immeubles par là, c'était des maisons d'ouvriers.
Do nas.
Nie, prêtre se rencontrent et disent « Szczęść Boże ».« Szczęść Boże », que Dieu vous protège, vous bénit. Bon, voilà.
Et là, on est devant la statue.
On est devant la statue de Sainte Barbara, qui est la patronne de Mineurs. Presque dans chaque mine, il y avait une petite chapelle consacrée pour cette sainte. Alors, elle protège le mineur. C'est la protectrice, on peut dire. Bon.
Proszę bardzo. Ja będę może prowadził. Przepraszam, że pierwsza, ale proszę wejść, a zaraz poprowadzę.
Bonjour, madame.
Les Grolles,
c'est qui les
Grolles? Les Grolles, ce sont les gens, ce sont des Polonais qui sont venus ici pour travailler. Mais ce sont les Silésiens, proviennent d'ici, proviennent d'une famille silésienne, voilà, ils ont des traditions et tout ça. Mais les Grolles, ce sont tous les autres qui sont venus. On estime que Tchelak, ce sont surtout les Grolles, par exemple. Voilà.
Granica na Brenice.
La frontière était à Brenica. Rivière, Brenica. Voilà.
Brenica zaboru rosyjskiego i niemieckiego była na Brenicy.
Notre rivière Brenica, c'est la frontière des terrains qui étaient occupés par les Russes et les Autrichiens. Tak, et si on demande les habitants de Tchelak, d'où viens-tu? Alors, il répond, je suis de Tchelak, mais... Les habitants de Piaski, ils répètent toujours, je suis de Piaski. Ici, on peut dire qu'existe un patriotisme local.
Ta kopalnia jest, je Anthony tak powiem, Chapnik. Spadkobiercą kilku kopalń.
Ici, on a ramassé de machines et des restes de quelques mines. Les puits Paul étaient... Vraiment ici.
No to 903-931 to był jeszcze okres prosperity, że tak powiem.
C'était le bon temps pour, pour la mine, pour les mineurs. C'était la période de la prospérité de notre mine de Tchelak.
Na bazie tego szybu, Paweł,
dans ce ancien puits de Paul, maintenant il y a deux pompes qui travaillent et qui s'occupe d'évacuation de eaux.
Korytarzem, na którym wiszą obrazy z dawnych zlikwidowanych kopalń tego rejonu.
On va passer par le corridor où il y a de tableaux représentant des photos du temps de quand les mines fonctionnaient. Des mines qui fonctionnaient ici.
Szyby, maszyny wyciągowe.
Ce ne sont que des fragments de puits, de machines.
Tak. Mine. Proszę bardzo.
C'est la deuxième mine qui fonctionnait à Tchelak. On va voir, on va la possibilité de voir quelques machines qui sont sur place là-bas. On a rénové une partie de cette mine.
Donc nous sommes dans la grande salle de Saturne, qui était l'ancienne centrale électrique, qui a été rénovée grâce à des fonds européens. Dans cette grande salle, des machines ont été restaurées et placées là. Et donc, c'est dans cette salle qu'est présentée l'exposition sur Victor Vianney. Donc, comment commence cette histoire?
Oui, c'est plus qu'une histoire, c'est quand même une aventure. Victor Vianney donc, arrive ici en 1903, il arrive à Tchelak.
Régis Guyotta.
Et c'est un jeune ingénieur des mines, il sort de l'école des mines de Saint-Étienne, il a une trentaine d'années. Et 1903, finalement, c'est une date intéressante. En France, c'est le temps de la conquête économique et industrielle. Des investisseurs français parcourent l'Europe.
Parce que, juste petit rappel historique, la Pologne, donc en 1903, se trouve dans quelle situation ?
La Pologne est dans une situation compliquée. Une partie de la ville de Tchelach est sous occupation russe. Donc tous les échanges, tous les salaires, par exemple, se font en roubles. Et évidemment, Victor Vianney aussi, il doit apprendre le russe, mais aussi le polonais. Tchelach, c'est en plein cœur de la Silésie. Et la Silésie, à cette époque-là, est une région qui est très convoitée pour ses matières premières, et notamment le charbon. C'est le grand bassin de la Dombrovna. Et donc les investisseurs occidentaux, à ce moment-là, s'intéressent évidemment au développement économique de cette Silésie. Donc sur Tchelach même, il y a deux sociétés, une société allemande et qui gère une mine qui s'appelle Saturne, et un petit peu plus loin, dans la campagne, il y a une autre mine qui s'appelle Piaski, et qui est gérée par une société française qui s'appelle la Société des Mines de Tchelach.
Dans cette première vitrine, on voit la photo de Victor Vianney avec toute sa famille.
Quand il arrive, il est célibataire, il a une trentaine d'années, et il va épouser la propre sœur de son patron, qui s'appelle donc Victor Tesna du Moncel. Et à la suite de ce mariage, une grande famille va se constituer. Une partie des enfants naîtront à Tchelach et une autre partie en France.
Je me rappelle le plus, il y a des tas de choses, hein, je sais, il y avait
Pierre Guyotat,
faire la part de la légende, de ce que notre mère disait pour attirer notre attention, pour jouer aussi un petit peu. Il y avait des histoires de loups, il y avait des loups qui l'hiver couraient autour des murs de la maison, enfin de ce qui était à l'époque la propriété, qui devait être beaucoup plus grande que ce que c'est devenu maintenant, bien entendu. Et je me souviens, il y avait des histoires de loups qui hurlaient comme ça, qui passaient le long des murs, sous les sapins. Mais parce que notre mère avait un rapport au sapin qui était particulier. C'est vrai que le sapin est un arbre puissant, il est un peu triste malgré tout. Même quand il est grand et large, c'est un arbre sérieux. Ça, voilà. Moi je me souviens vraiment très bien, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Quand je pense à elle, nous parlant de la Pologne, j'avais été très frappé quand j'étais enfant, peut-être vers l'âge de 3 ans, c'était le récit d'une petite maison qu'on leur avait construite, qu'on avait construite aux enfants, aux garçons. Alors moi, déjà, quand on est un petit enfant, on sort d'abord de la première maison de l'humain, qui est le ventre de la mère, bien entendu. En plus, il y avait l'évocation de cette maison, avec les loups tout autour qui tournaient, etc., donc qui protégeaient en quelque sorte, d'une certaine façon, qui menaçaient, mais qui protégeaient en même temps ce domaine. Et puis, à l'intérieur de cette maison, il y avait la maison de nos oncles, c'est vraiment le souvenir le plus, je pense, le plus fort, le plus vrai, je pense.
Et qu'est-ce que le mot de Tchelach évoquait pour vous?
Oh, mais il y avait d'autres mots, d'autres noms aussi. Le nom de Zakopane qui revenait très souvent. Ça m'amuse de le retrouver dans Gombrowicz d'une façon très fréquente, avec tous ses amis qui y allaient, etc. Et aussi, j'ai relu après que c'était un lieu qui a été très fréquenté, Zakopane. C'était, je crois même Lénine y a fait un séjour. Puisque même, j'ai lu dans Lénine un livre de Malaparte, que Lénine descendait, je crois, à Zakopane voir des amis qu'il avait, et ses amis faisaient de la musique. Et Lénine aimait quand même un peu la musique, il aimait surtout Beethoven, la passionata surtout, mais un jour, ces musiciens lui ont joué un morceau de quatuor de Beethoven, enfin des derniers quatuors. Et là, il ne comprenait rien du tout, il était perdu, et ça l'a beaucoup ennuyé. Mais bon, je me souviens de ça. Voilà. Donc Zakopane, c'était un lieu très important où se sont croisés beaucoup de gens. Dans des hôtels, j'imagine qu'il y avait déjà beaucoup d'hôtels à l'époque. Mais là, Claude Gombrowicz me touche beaucoup en ce moment parce que, au fond, il est né en 1904. Il est né 3 ans avant notre mère. Donc la Pologne qu'il décrit, c'est tout de même la Pologne qu'a connue ma mère. Pologne, c'est aristocratique quand même. Hein, Пани, може, уж и не пам'ятаєш мене, помисли то вша крок тему, ти ж не відомо чему, певней ноці, жекла мі кохам тя, чи пам'ятаєш ту ноць в Закопанем, Księżyc świecił srebrzyście jak star, po kobiercu ze śniegu usłanym, nasze sanie gdzieś nas niosły w dal.
Alors toi, pour la petite histoire, tu vois les parkings à côté, ben c'était les tennis, et on trouve encore des traces du tennis, il y avait 2 tennis. Et donc on a construit, après la guerre, il a été construit des garages sur les tennis, mais au sol on voit encore des restes. Il y a des photos où on voit les oncles et tantes jouant au tennis. C'est quand je suis venu avec papa ici, il a vu la maison et il est reparti. Il n'a pas voulu la regarder plus longtemps. Ça lui a fait un tel choc de voir que, j'ai cru comprendre, c'était une très jolie maison avec un joli jardin, tout bien entretenu. Et découvrir que dans quel état c'était, parce que là maintenant c'est en état, hein. Mais il y a 30 ans quand on était venu, t'avais rien de tout ça, t'avais rien de ces arbres, t'avais rien des barrières, etc. T'avais l'impression d'une maison à l'abandon. Et donc on est resté 30 secondes, il est reparti, on est resté une semaine à Piaski, où on s'est promené, mais il n'a jamais voulu se rapprocher de la maison, tellement ça lui a fait un choc. Voilà. Alors ce qui est drôle dans cette maison, c'est, je sais pas pourquoi, c'est la frise qui a tout en haut, qui fait tout le tour de la maison. Et derrière, tu avais un immense bassin, je ne sais pas ce qu'il est devenu, où on faisait du bateau, où on pêchait des poissons. Il y avait des serres avec des fleurs toute l'année. Et tous les jours, dans l'entrée, un bouquet de fleurs neuf était fait. 365 jours par an. Il y avait, je crois, des espèces de fleurs très, très variées. Et comme c'était des serres, des fleurs exotiques aussi. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Voilà. Je suis Benoît Vianney. Vianney. Bonjour, madame.
Directrice.
Bonjour, madame la directrice. Voilà. C'est la maison de notre grand-père.
Maintenant, et c'est le centre pour les gens qui sont handicapés, pour les malades.
C'est une bonne idée que cette maison sert pour les plus pauvres. En tout cas, ça a quand même sacrément amélioré, hein, moi je trouve. On va voir derrière.
Quoi ?
Cette maison, en fait, vous la connaissiez en photo ? Hubert Guyotat.
Oui, mais pas du tout comme ça. Pas du tout sous cet aspect-là, parce qu'il n'y avait pas ces arbres. Puis alors, les photos qu'on a, est-ce que c'est cette face ou de l'autre côté ? Enfin, je ne sais pas. En fait, ça doit être de l'autre côté. Mais c'est vrai que c'est très émouvant.
Sto kobiet cię kochalo, isto zdradzalo cię. Jedna została wierną.
Et qu'est-ce que ça représente pour la famille, pour...
Ça représente notre mère, et puis enfin, j'imaginais, je cherchais sur ses façades sa chambre. puis je la voyais déambuler dans la maison, courir dans le parc, enfin voilà quoi, c'était un peu ça.
Dla niej śpiewam je za piosenki z dawnych dni.
Parce que la Pologne, du coup, dans la famille, on en parle beaucoup.
Pour moi, la Pologne, oui, c'est... Même si ça n'avait pas de contours, ni de choses très, très réelles, pour moi, c'est quelque chose de très viscéral. Pour moi, c'est... Enfin, tout est mélangé. Pologne, Tchélac, maman, voilà, c'est la même chose. Voilà, donc c'est pour ça que c'est... Pour moi, ce voyage est vraiment... il y a un mois, je ne pensais pas venir et que maintenant, je ne pensais pas être aussi ému.
Victor Vianney, c'est un ingénieur. C'est son métier. Il assure aussi la production de l'entreprise. Mais ce n'est pas uniquement un technicien et un gestionnaire. C'est aussi un patron qui estime qu'il doit assurer aussi le bien-être de ses ouvriers en dehors de la mine. Victor Vianney est un chrétien social. C'est un mouvement qui est assez représenté dans certains milieux patronaux, économiques à ce moment-là. Alors c'est la raison pour laquelle, et on peut encore le voir aujourd'hui, il construit des logements, il construit des écoles, et on sait qu'à l'intérieur de ces écoles, on a un document là qui est d'ailleurs à proximité, où on constate qu'il y avait 800 élèves dans les écoles qu'il avait créées.
Et il y avait aussi un dispensaire. Est-ce qu'on a des documents sur,
oui,
sur cet aspect des choses?
Il y avait des choses extrêmement concrètes. Il y avait des salles de bain-douche, même en dehors de la mine. Il y avait aussi un équipement culturel où les cadres pouvaient se rencontrer. Il y avait aussi une maison de l'administration, je pense, avec des bureaux pour loger les employés. Et au niveau de l'urbanisme, c'est vrai que c'est intéressant. C'est probablement conçu sur le modèle des corons du Nord en France, auquel lui, il ajoute un symbole religieux fort, donc qui est la construction de l'église. Et puis l'on sait aussi que cette époque-là, enfin le souvenir que les gens aujourd'hui ont de cette période, c'est une période de prospérité, c'est indiscutable.
La famille de ma mère travaillait dans la mine. Mon grand-père, mes trois oncles, ils travaillaient. Moi, je savais toujours qu'il y avait des Français à Piaski, mais pour moi, c'était les Français. Voilà. Et à l'église, il y avait des plaques. Donc, l'enfant, je me posais toujours la question, c'était qui ces Français? Mais sans connaître l'histoire, on se pose des questions, mais voilà, on ne peut pas trouver des réponses. Là, aujourd'hui, j'ai compris beaucoup mieux certaines choses, mais voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de gens comme ça qui savaient qu'il y avait des Français, mais pas plus.
Et quand tu étais petite, Agnieszka, est-ce que c'est une histoire dont tu avais entendu parler et dont on parlait facilement?
On a perdu beaucoup de documents, on a perdu les photos, il ne restait pas grand-chose en fait dans les archives de la mine. La mine n'existe plus depuis presque 20 ans.
Et est-ce que c'est aussi parce que c'était une période dont on ne parlait pas, parce que c'était l'époque des capitalistes, entre guillemets?
Je pense aussi parce que l'époque communiste en Pologne, c'était, voilà, c'était une époque où on méprisait, je pense qu'on peut dire ça, on méprisait vraiment le capitalisme. En plus, les étrangers, les capitalistes étrangers, c'était pas forcément très très bien vu. Je pense que c'était aussi particulier pour ce genre d'endroit. C'était les villes ouvrières. Donc, les gens ne se posaient pas trop de questions existentielles. C'était vraiment le travail avant tout.
Dans quelle situation est aujourd'hui la ville de Tchélac?
la société la plus importante à Tchelat qui donnait de travail, c'était la mine. Je crois qu'il y avait à peu près 6 000 employés, donc c'était déjà très important. Après, jusqu'au changement de système en Pologne, à Tchelat, il y avait quand même beaucoup de sociétés industrielles. Tout a été fermé et aujourd'hui, la ville vit uniquement de commerce, de services. Il n'y a aucune industrie dans la ville même. D'ailleurs, démographiquement, ça a beaucoup changé. Moi, à l'école, j'apprenais encore qu'il y avait 40 000 habitants. Aujourd'hui, je me suis renseignée un tout petit peu. Aujourd'hui, en janvier, il y en avait 31 000. Et en 8 ans, il y a 3 000 habitants en moins. Donc, c'est pas négligeable. Et déjà, il y a une chute de natalité et il y a beaucoup de gens qui repartent à l'étranger. Après, le chômage est aussi assez important. Je crois qu'il y a environ 1 700 d'habitants au chômage, dont 1 550 ou 40, quelque chose comme ça, je crois, qui n'ont pas droit aux ASEDIC, aux allocations de chômage. Donc ça, c'est pas négligeable. Et c'est une ville qui n'est plus prospère.
C'était construit par notre grand-père et avec des matériaux qu'il avait inventés à partir des mâchefers de l'usine. Voilà, donc des briques faites avec des matériaux qui est extrait de la mine et après est transformé. J'ai salué le père curé. Bonjour père.
Bonjour. I gratuluję tej uroczystości dzisiejszej.
Zaraz, już, pani,
a tam jest. Dobrze. Prosimy bardzo.
Monsieur le curé, Józef Heinderek,
tak jest, oui, tak
qui
jest.
S'occupe de la paroisse
Madame
Piaski.
Witam serdecznie. Dobrze. Dobrze. A może poświęcę.
Madame Ania Zajda va nous raconter un petit peu l'histoire de l'église.
Kościół w tym roku obchodzi 90. rocznicę powstania.
Cette année, cette église fête
90e anniversaire.
15 juillet 1924. L'église était consacrée. Et cette église a été construite grâce à M. Victor Vianney.
I to jest jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny kościół w Polsce,
c'est
ponieważ...
église unique en Pologne, parce que...
Ten kościół jest wierną kopią kościoła Matki Bożej Najświętszego Serca w Kerbon. Dzisiaj jest to dzielnica miasta Brest w Bretanii.
Parce que on peut dire que cette église, c'est la copie de l'église qui se trouve à Brest, en Bretagne, en France.
Państwo pytają, dlaczego? Tak się, jak to się stało?
No właśnie z uwagi na zaangażowanie Wiktora Vianneya. Poza tym muszę też wspomnieć, że piaski w ogóle powstały w oparciu o francuskich architektów i projektantów.
Parce que c'était les architectes français et qui ont construit, on peut dire, la piaski. Voilà.
Kościół został w całości wybudowany, ufundowany sumptem towarzystwa.
L'église était construite grâce au fonds de société anonyme. C'était le mineur, les gens qui ont travaillé à la mine, qui ont construit cette église.
Avec leurs mains.
Witraż z kolei to jest symbol przyjaźni polsko-francuskiej.
Le vitrail, c'est le symbole de l'amitié franco-polonaise.
Został on ufundowany przez głównego administratora towarzystwa i prezesa rady nadzorczej.
C'était monsieur Jean Keller,
i przewodniczący prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Albert de Montplanet.
Et c'était aussi monsieur Albert de Montplanet qui ont fondé Tony Obedwaj, tak?
On
fondé ce vitrail.
Proszę zwrócić uwagę, pod Chrystusem, prawda, znajdują się dwa herby, Polski i Francji.
Il y a des emblèmes de France et de la Pologne.
Ok, si on voit, le maréchal Foch devant Saint-Louis à genoux. Et derrière, avec Foch, le soldat français de 14-18 avec le drapeau. De l'autre côté, c'est la Pologne, avec le roi.
Le roi Casimir.
C'est Casimir.
Voilà.
Et puis derrière, donc le soldat polonais.
Oui.
Et puis de chaque côté, on voit qu'on va vers le Moyen Âge. Hein. Donc ça montre la multiséculiarité des relations entre la France et la Pologne. Théoriquement, il y a ta grand-mère et tante Pouka qui sont aussi dans les vitraux, là, dans les anges, etc.
Mais en dessous aussi, là, en dessous, là, tu sais, au-dessus du tableau, là, enfin, au-dessus du tabernacle, non, c'est deux garçons.
Là, c'est des filles. Toi, là, on voit bien l'époque, hein. Peut-être Claire, tu te reconnais pas dans un des portraits là.
Moi, mes plus anciens souvenirs, je l'ai du reste raconté un peu dans des textes, c'est en 1940, déjà 1940, voire même fin 39, peut-être, après la déclaration de la guerre. Donc, il y avait beaucoup de familles polonaises donc dans les mines de Saint-Étienne et de la vallée du Gier et de la vallée de Londaine, donc de l'autre côté. On a dû savoir que notre mère parlait le polonais. Donc il y avait des femmes polonaises dont les familles étaient un peu repliées sur la montagne à cause des bombardements, etc., qui venaient à la maison. Oui, mais pour parler polonais. Donc j'ai entendu cette langue extrêmement tôt. C'est un de mes plus anciens souvenirs parce qu'elles sont restées jusqu'en 1943, voire plus loin, voire plus avant. Des femmes qui étaient très colorées, qui avaient beaucoup de, qui avaient des vêtements très colorés, des fichus, c'était très joli, rouge surtout, je me souviens, beaucoup de rouge. Elles étaient dans tout l'appartement, je me souviens. Et à la fois, notre mère était contente, et en même temps, elle avait beaucoup de, elle avait beaucoup de choses à faire, donc elle se plaignait un petit peu par moments. Alors je ne sais pas du tout ce qu'elle se disait, je ne peux pas savoir. Hein. Mais ma mère connaissait bien tout de même la campagne polonaise, elle pouvait s'exprimer parfaitement bien. Elle parlait parfaitement bien le polonais, parfaitement. Hein. C'était sa langue natale quasiment, parce qu'elle est née en Pologne. Né, baptisé, enseigné en Pologne et tout. Donc c'est cette sorte de Babil, si je peux dire, de ces femmes polonaises très bariolées, qui m'a introduit en tout cas dans la réalité polonaise, par la langue. Il y avait aussi beaucoup au mur, partout, sur les meubles, beaucoup d'objets, beaucoup de petits objets polonais, de très jolis objets, bien entendu, qui ont eu une très grande importance pour nous. Ces petits objets, un skieur des Tatras, etc., toutes sortes de choses qui étaient sur une grande tenture dans notre salon, une grande tenture en poil de je ne sais quoi, une grande peau de loup, je ne sais pas, de grand loup ou de plusieurs loups, je sais pas. Et il y avait sur cette tenture qui était donc derrière juste le canapé rouge où on écoutait la musique à la radio pendant la guerre et après, il y avait sur cette tenture accrochés des objets, des figurines en bois. En bois et avec des vêtements en tissu, très jolis. Mais il y avait aussi la peinture aussi, il y avait aussi des cartes postales, beaucoup de cartes postales, qui ont eu une importance très grande sur moi. J'ai certainement mis quelque chose de ça dans ce que j'ai fait après. C'était des peintures surtout de Machevski, donc dans la deuxième moitié du 19e. Enfin, c'est un peintre disons romantico-symboliste. Et il y avait des peintures extraordinaires. Une peinture en particulier que j'ai fait reproduire avec les couleurs et tout sur le programme de Bivouac, mon spectacle du Festival d'automne en 1986. Oui, ça se maintient, la Pologne. Hein. Et c'était un très beau tableau où on voyait un jeune homme, sans doute, peut-être paysan, un petit peu, avec tête rasée, comme souvent dans les choses. Et souvent dans Gombrowicz aussi, du reste, qui était assis comme ça, qui était très rêveur et tout. Et il y avait autour de lui, ou derrière lui, pas très bien, il y avait une sorte de femme, comme Mocinski le faisait, un peu menaçante, très belle, hein, magnifique, un peu, peut-être pas gorgone, mais un peu entre sirène et serpent, avec souvent, du reste, souvent le bas du corps en serpent ou en sirène, mais avec des têtes extrêmement... c'est surtout la femme tentatrice. Hein. C'était très net, et ce jeune homme rêvait avec derrière cette tentatrice qui l'attendait en quelque sorte, et qui avait, comme souvent chez ce peintre, les femmes ont des... J'ai jamais vraiment réussi à savoir si c'était des cornes ou des sortes d'aigrettes qui leur poussaient sur les tempes, et qui leur donnait un aspect un peu démoniaque, d'une certaine façon. Et cette peinture a été tellement forte pour moi, parce que c'est un très bon peintre. Il y a eu aussi beaucoup d'autres peintres, dont on avait des cartes postales, dont on avait même quelquefois des tableaux, même. Des peintures de paysannes, par exemple, courant sous la pluie. Il y avait des scènes comme ça, très, très belles. On retrouve du reste ça dans le journal de Gombrowicz. Il a un œil formidable. Il y avait aussi dont je me souviens très bien, c'était une sorte de carré, en charbon verni, je pense, qui était à peu près d'une dimension, disons, 10 cm sur 10 cm. C'était du charbon de Tchelach. Il y avait dessus, du reste, une inscription dont je ne me souviens pas. Et donc ce charbon était sur un des meubles du salon chez nous, voilà. Mais ce charbon était là, étrange, comme une sorte de Kaaba, une sorte de Kaaba, quoi, un peu comme la Kaaba à la Mecque, quoi.
Voilà, nous nous trouvons dans une chapelle qui a été construite à côté de l'église de Piaski. Et dans cette chapelle est exposée une descente de croix qui précédemment se trouvait dans la mine, dans une chapelle qui se trouvait à l'intérieur de la mine et à laquelle les mineurs allaient prier avant de descendre au fond. Et avec la fermeture de la mine, toutes les statues, tous les monuments qui étaient à l'intérieur ont été rapatriés. Et entre autres, cette descente de croix était installée dans cette chapelle.
Avec des blocs de charbon.
Et avec tout ça reposant, bien sûr, comme on est dans un pays de mine et que c'était installé dans la mine, c'est reposant sur un tas de charbon.
On codziennie pierwsze szedł na szóstą na mszę świętą, a dopiero później do pracy.
Vianney, chaque jour à 6 heures du matin, il est venu à l'église pour être à la messe, pour participer à la messe, et après il est parti.
Alors, ostatnio czytałam, że nie zamykał się w swoim domu, tylko między godziną 7 i 8 obchodził włościa.
Il n'était pas, il ne restait pas fermé dans sa maison, mais on pouvait les rencontrer autour de la maison, dans les quartiers, parce qu'il voudrait bien voir qu'est-ce qui se passe autour aussi.
A to jest budynek biura głównego kopalni Czelać.
Ici, c'était le bureau général de la mine. C'est le bureau principal de la mine.
Budynek tak naprawdę dotrwał do naszych czasów pod względem takiej architektonicznej struktury.
On n'a rien changé, mais il existe comme il était construit.
Ireneusz Gawroński.
Je m'appelle Ireneusz Gawroński. Je suis l'arrière-petit-fils de Piotr Machura, qui travaillait dans les mines de Tchelach depuis 1880 jusqu'à 1932 ou 1933. Il habitait une petite maison dans le lotissement de la mine. Il avait 9 enfants, donc 8 filles. Il n'était pas très riche. C'est pour ça que le directeur de la mine a fait travailler 2 ou 3 de ses filles. Il les a engagées comme domestiques pour qu'elles s'occupent des enfants à la maison. Une de ses filles, c'était ma grand-mère, Josefa Mahura. C'est elle qui s'occupait des enfants du directeur de la mine. Elle aidait à la cuisine, par exemple, pour éplucher les pommes de terre. Je me souviens bien, elle me l'a raconté. Et du coup, je pense que tout le monde était content. Elle, elle gagnait un peu d'argent, et le directeur, il avait de l'aide. Le père de ma grand-mère, lui, était mineur. Et aussi tous mes grands-pères, ils étaient mineurs. Ils travaillaient depuis 1880. À la compagnie de Tchelach. Je crois que tous les mineurs étaient contents des conditions de travail, à part en 1924, où il y a eu une grève organisée par les syndicats des mineurs.
Quelle était la raison de cette manifestation ?
À l'époque, il y avait une crise mondiale et il y avait des difficultés pour vendre le charbon. Je crois que les propriétaires de la mine n'avaient pas de liquidité et du coup, ils ont retardé les paiements des salariés. C'était des familles nombreuses et l'argent leur manquait. C'est pour cela qu'il a eu des problèmes. À Piaski, en face de la maison du directeur, il y a un parc avec un monument à la mémoire des 4 mineurs tués.
Et je voulais dire aussi que la rue Fosza, la rue Marszałka Fosza,
et l'ancienne rue du maréchal Foch, elle s'appelle maintenant la rue du 3 avril, en mémoire de cette tragédie du 3 avril 1924.
Est-ce qu'il y avait souvent des accidents ? Est-ce que c'était une mine dangereuse ?
Non, ce n'était pas une mine dangereuse, parce qu'il n'y avait pas de gaz. Et les problèmes d'eau, ça existe dans toutes les mines. C'est normal. Ça coule en bas, donc il faut pomper vers haut. Ce n'était pas une mine dangereuse, mais il y avait des accidents parfois, comme dans n'importe quelle mine. C'était une bonne mine pour les mineurs.
Vianney a une correspondance très régulière avec sa femme lorsqu'elle rentrait en France ou avec sa famille. Et donc toutes ces lettres témoignent de ses préoccupations, de la vie de la mine. Il expliquait tout ça à sa femme et on a une lettre là devant les yeux.
Ma chérie, j'ai eu cette nuit mon petit courrier. Alors, le mot courrière, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est un lieu dit en Belgique. Et au début du XXe siècle, il y a eu une catastrophe minière absolument épouvantable, avec des milliers de morts. Je pense que dans l'opinion publique de cette époque-là, c'était analogue à une catastrophe de Tchernobyl ou quelque chose de cette importance. Alors il dit donc, j'ai eu cette nuit mon petit courrier, une explosion de poussière m'a brûlé 6 hommes. Heureusement, pas mortellement. C'est beaucoup d'émotions pour un jour. Heureusement, dans les conditions où nous sommes, c'est un mal facile à supprimer et avec quelques mesures de précaution, je pense que nous pourrons améliorer très nettement la situation.
Moi, je suis très attachée à cette mine de Tchelach, professionnellement et sentimentalement, parce que moi, j'y travaillais jusqu'à sa fermeture. Un jour, j'ai discuté avec le dernier directeur, c'est lui qui a été chargé de la fermer. Et comme j'ai travaillé pendant des années avec lui, il m'a fait une confidence. Il m'a dit qu'il l'avait fermée de telle manière qu'on pourrait éventuellement la réouvrir un jour. Et ça, c'est une nouvelle qui me laisse de l'espoir.
li bowiem bieweni aczelet. Witamy w mieście, które ponad 30 lat było domem dla pana dziadka Wiktora Wiani i jego rodziny.
Soyez le bienvenu dans la ville qui pendant 30 ans était la maison de votre grand-père Victor Vianney et sa famille.
Wielka to chwila dla nas, w której możemy w sposób szczególny uhonorować wnuka wielkiego Wiktora Wiany, pana Benoît Wiany, zaszczytnym tytułem honorowego obywatela miasta Czech.
C'est un moment important pour nous où on peut honorer un petit-fils de grand Victor Vianney, monsieur Benoît Vianney, avec ce titre de citoyen d'honneur de Tchadak.
Je vis en France, à Lyon. C'était un collègue de mon mari. C'est lui qui s'est mis à raconter un tout petit peu l'histoire de la famille. Nous, on a les liens avec la Pologne. Mon grand-père était directeur de la mine à Tchelach. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, on est resté un tout petit peu bouche bée parce que c'est une petite ville, donc les Français en général ne la connaissent pas. On la trouve pas forcément sur les plans, donc c'était assez drôle. J'ai posé pas mal de questions justement sur l'histoire de cette famille et ça tombait très bien parce que je comptais passer chez mes parents en Pologne et du coup j'ai eu cette idée de mettre en relation Benoît Vianney avec la bibliothèque municipale et en particulier la personne qui s'occupe de l'association historique. Elle m'a proposé d'écrire un petit article si je pouvais poser quelques questions à cette personne sur l'histoire de la famille, parce que comme la mine à Tchelach, elle est devenue nationale après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les informations, beaucoup de documents, les photographies ont été ou détruites, ou volées, ou brûlées. Donc ils n'avaient pas grand-chose, ils n'avaient même pas une petite photo de l'ancien directeur, donc Victor Vianney. Et c'est comme ça qu'on a commencé un tout petit peu cette histoire. J'ai écrit effectivement cet article pour petit cahier historique qui sort une fois par an à Tchelach. Et donc, j'ai pu présenter un peu l'histoire de la famille et ensuite présenter aussi quelques petites photos. Donc ça a déclenché les contacts avec la famille Vianney. Et ensuite, je leur ai proposé que ça serait peut-être bien qu'ils passent à Tchelach pour revoir un peu ce que c'est actuellement. Donc Benoît Vianney, il était très volontaire pour partager un peu les souvenirs familiaux. La ville a proposé de le nommer en tant que représentant de la famille Vianney, de le nommer citoyen d'honneur de la ville, justement pour maintenir cette mémoire de famille qui a participé au développement de la mine au début du XXe siècle. À l'occasion justement de cette nomination citoyen d'honneur de Benoît Vianney, nous avons organisé une exposition avec les souvenirs familiaux de la famille Vianney. Il y avait des photos, il y avait des documents liés au personnel domestique surtout. Et donc je pense que c'était assez intéressant. Il y avait quand même pas mal de gens qui sont venus voir l'exposition.
Ma famille, mes frères et sœurs, mes enfants, mais aussi mes cousins, dont cinq sont ici présents, c'est un grand moment de voir honorer la mémoire de notre grand-père. Un geste de reconnaissance de son action de plus de 40 ans pour Tchelach. Et c'est aussi une grande responsabilité pour nous de faire connaître et faire apprécier votre fille.
Tchelatch, aujourd'hui, la réalité de la ville, est-ce que vous l'imaginez ou est-ce que, d'une certaine manière, ça pourrait détruire un peu tout cet imaginaire que vous avez ?
Non. Justement, je voudrais y aller. Moi, ça ne changerait pas du tout. Parce que là, les souvenirs que j'ai, c'est les loups, la petite maison. De toute façon, tout ça n'existe plus. C'est des souvenirs qui sont vraiment dans ma petite maison à moi, si je peux dire. Reste autre chose. Bien entendu, la mine, tout ça, c'était très présent. Il y avait des images. Le fait que, par exemple, il y avait une chapelle souterraine en charbon, par exemple. Ça nous... Oui, alors... Mais c'était lié aussi, c'était lié chez moi, et j'en ai fait un usage important après. C'était lié au fait qu'il y avait dans la cour chez nous, la cour en bas, à côté des garages de mon père, il y avait une sorte de cave à charbon. Donc on ouvrait cette cave à charbon, qui était de plein pied, et il y avait des tas de charbon pour l'hiver. Donc ça se mélangeait un peu avec Tchelatch et tout ça. Mais en fait, c'était le charbon, Tchelatch, beaucoup. C'était beaucoup aussi l'action sociale, disons, socio-professionnelle de notre grand-père. Voilà. Mais c'est assez abstrait pour un enfant, mais c'était plutôt une structure morale. Alors, le Tchelatch, c'est pas nouveau. C'est pas du tout chez moi. C'est très ancien. C'est très ancien. Qui montre bien que cette filiation, parce que c'est une filiation, c'est vrai, c'est une filiation. On a quelque chose de polonais en nous. C'est... Moi, je pense, vraiment. Ah oui.
C'était un voyage singulier en Pologne avec Bożena Baran, Benoît Vianney, Régis Guyota, Hubert Guyota, Pierre Guyota, Agnieszka Boronski, Anthony Tchapnik, Ireneusz Gawronski. Merci à la municipalité de Tchelatch et à Eva Ambrosi. Merci à toute ma famille et à ceux qui n'ont pas pu faire partie du voyage. Coordination, Irène Omelianenko. Attachée de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Mixage, Olivier Dupré. Un documentaire de Claire Pouli-Borgeot, réalisé par Anna Smuk pour Sur les Docks.